Initialement, Boko Haram a pu être instrumentalisé dans les années 2010 par des politiciens du nord du Nigeria qui étaient un peu mécontents de la remise en cause de cet accord tacite qui fait que chaque fois qu'on a un président du sud qui fait deux mandats, c'est un président du nord qui fait deux mandats. Avec le décès de Umaru Yar'Adua et l'arrivée de Goodluck Jonathan, vous savez que ce principe a été un peu remis en cause. Donc certains politiciens avaient trouvé dans Boko Haram un moyen de déstabiliser l'État fédéral. Sauf que par la suite, cet instrument, ce monstre-là, leur a échappé de la main et a commencé à s'en prendre à ceux qui étaient au début ses parrains. C'est devenu une sorte de monstre à plusieurs milliers de têtes que personne ne contrôle. Et Boko Haram a trouvé les moyens à inventer des méthodes pour avoir son financement autonome.
Beaucoup évoquent également les Émirats arabes. Hein.
Il est possible que les gens de Boko Haram instrumentalisent cet affichage religieux en allant dans les pays du Golfe pour dire qu'ils défendent l'islam, si même les principaux bailleurs de fonds de Boko Haram suivent. Boko Haram n'a aucun comportement qui amène à considérer qu'ils défendent l'islam. Vous savez que l'armée fédérale du Nigeria et les forces de défense et de sécurité ont abandonné cette partie à Boko Haram. Donc Boko Haram prélève une sorte d'impôt sur les commerçants. Moi-même, j'ai des témoignages concrets des commerçants qui ont été invités à verser leur contribution à l'effort de guerre, entre guillemets, puisque Boko Haram dit qu'elle les défend. Et il y a un deuxième mode de financement. Lorsque Boko Haram attaque une ville, lorsque Boko Haram attaque un village, tout le butin de guerre leur revient. Et avec ce butin de guerre-là, ils procèdent à des recrutements, ils procèdent à des achats d'armes, sachant aussi qu'ils ont récupéré des armes et du matériel sur l'armée du Nigeria qui quasiment abandonne sans livrer bataille.